Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. C'est donc le troisième délit d'opinion de la saison. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave et très content de l'être. On va discuter donc un petit peu d'actualité. Je pense que la première actualité, la plus grosse de cette semaine, c'est quand même le décès de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II, qui était souveraine depuis 1952, donc ça fait un paquet de temps. Enfin, vous avez peut-être des petits, tout petits souvenirs de quand son père était roi, mais enfin peut-être pas tant que ça. Donc
9 ans.
voilà, c'est quand même dingue parce que l'écart générationnel entre nous est quand même assez important et pourtant on n'a vraiment connu qu'un seul souverain d'Angleterre. Donc c'est quand même quelque chose. Alors à 96 ans, évidemment, on pouvait s'y attendre, hein, c'était pas une très grande surprise. Mais ça, c'est une info qui a évidemment chamboulé l'Angleterre et le Royaume-Uni, mais au-delà de ça, le monde occidental et même un peu le monde entier. Est-ce que cette reine était une sorte de symbole de permanence historique, vous pensez?
Bah, oui, elle était une permanence historique et symbole certainement. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la souveraineté en France, elle est dans le peuple français, soi-disant. Hein, bon.
Selon nos institutions, oui.
Selon l'institution, le peuple est souverain, sauf quand il vote au référendum d'une façon désagréable. À ce moment-là, il est d'un seul coup plus souverain et c'est là. On change, mais enfin, constitutionnellement, la France, c'est le peuple qui est souverain. En Angleterre, la souveraineté existe quand le peuple, quand le Parlement et la reine sont en même temps, dans un même endroit. Donc les Anglais ont une notion un peu différente de la souveraineté. Bon, les représentants du peuple, le Parlement, qui représentent la population anglaise d'aujourd'hui. Et puis, le roi, qui n'a aucun pouvoir, mais qui représente l'Angleterre éternelle, qui est là depuis des siècles et des siècles. Donc je trouve que cette notion de la souveraineté qui est partagée entre ceux qui ont tous les pouvoirs, le peuple d'aujourd'hui, mais quelqu'un qui mythiquement représente l'Angleterre historique, est une idée intéressante parce que ça veut dire quand même que n'importe quel premier ministre, quand il est nommé, s'incline devant la reine. C'est-à-dire, quelque part, s'incline devant l'histoire. Il se prend pas pour Louis XIV, il se prend pas pour Robespierre, il n'a pas le droit de changer les institutions, il peut pas changer l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc je trouve cette notion de la souveraineté anglaise extraordinairement féconde parce que vous avez le peuple d'aujourd'hui et une espèce de représentant de l'histoire, et je trouve ça une idée intéressante, plus féconde que la nôtre.
Vous pensez? Ce que je trouve assez intéressant, c'est que la France, qui est donc un peuple plutôt républicain, a quand même une sorte de fascination et est quand même assez chamboulée par cette nouvelle. Et Elisabeth II avait une sorte de popularité en France. Et je trouve ça intéressant et à analyser dans le sens où est-ce que vous pensez que peut-être une partie des Français, que ce soit consciemment ou inconsciemment, regrette quelque part d'avoir décapité son roi.
Alors ça c'est pas impossible. Puis la constitution de la Ve République est presque une constitution monarchique, c'est-à-dire
Oui.
on élit un monarque, donc c'est peut-être pas une bonne chose, parce que ce monarque ne représente que le peuple d'aujourd'hui, il ne représente pas le peuple de toujours. Alors c'est possible. Mais j'avais lu un jour un sondage d'opinion qui était fait chez les Français, justement, dans lequel on disait, en cas de guerre, avec qui préférez-vous être allié? Donc on leur avait mis tout un tas de pays, et le pays qui était ressorti en tête pour être allié, c'était la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que bon, on les déteste, comme dit mon fils, tous ceux qui jouent au rugby soutiennent deux équipes, son équipe et celle qui joue contre l'Angleterre. Mais ça fait rien. Quand les choses deviennent sérieuses, quand il faut aller se mettre sur la gueule avec des ennemis, on préfère être allié aux Anglais, quoi. C'est, y a une espèce de respect. Français, je pense, pour l'Angleterre, tout en les détestant, mais respect, tout en les détestant pour l'Angleterre et sa capacité à s'être battue pour ses idées depuis des siècles, quoi. Donc, pour moi aussi, l'immense mérite d'Élisabeth, dont les Français parlent assez peu, c'est quand il y a eu le mouvement de décolonisation, donc dans les années 50 ou 60, elle a préservé de façon merveilleuse le Commonwealth, avec, en établissant des liens absolument personnels avec les différents types comme Nkrumah, etc. Et donc, par sa présence, par le respect qu'elle inspirait aux autres, par, justement parce qu'elle représentait l'Angleterre éternelle, elle a réussi à maintenir cette construction extraordinaire qu'est le Commonwealth. Mmh. Cette espèce de... Tous les pays qui avaient dans le fond été colonisés par l'Angleterre et qui se reconnaissaient dans le fond dans le droit anglais, dans les institutions anglaises. Et elle est restée, ce qu'on oublie toujours, elle était la reine du Canada, la reine de l'Australie.
Absolument, oui.
Elle était donc la reine de tout un tas de pays, la reine de tout un tas d'îles dans les îles Vierges, etc. Donc, pour moi, c'est... Tout en n'ayant aucun pouvoir... Elle a réussi à maintenir les mythes,
oui.
Sans lesquels n'existe pas une nation. Quoi. C'est,
il y a un petit peu de ça, oui.
C'est très, très, ce qu'elle a fait est très fort.
Maintenant, est-ce que ces mythes, cette préservation, cette monarchie anglaise, est-ce que c'est juste une sorte de reliquat, quelque chose qu'on est content d'avoir, mais qui factuellement ne sert pas à grand-chose, ou est-ce que quand même... Ça a une certaine importance dans la préservation de la nation.
Ça a de l'importance. Alors, les choses changent. Mais prenez un homme comme Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, c'est celui qui littéralement a créé Singapour de toutes pièces. Hein. Il est arrivé, bon, il était ce qu'on appelle first at Cambridge, c'est-à-dire le meilleur élève qu'on puisse être. Puis Singapour a été chassé de la Malaisie parce que il y avait que des Chinois dedans, donc c'était un acte purement raciste, quoi. Donc on n'aime pas les Chinois. Ouais. Et ils étaient dans un état de délabrement total quand ça s'est passé. C'était au début des années 50. Et en l'espace depuis, ça fait 70 ans, Singapour maintenant est devenu un des niveaux de vie les plus élevés du monde, un des plus grands ports, etc. Bon, ça a été une réussite économique et politique flagrante. Mais pendant qu'il essayait d'établir la crédibilité des institutions, Lee Kuan Yew avait monté un système de droit où si on était en bisbille avec le gouvernement de Singapour, si on était une société française, étrangère, etc., et qu'on commençait à plaider contre l'État de Singapour, la dernière cour d'appel était la couronne britannique.
Ah, c'est intéressant.
C'est-à-dire qu'il avait accepté que, dans le fond, la cour... ce qu'on appelle le Supreme Council, je ne sais plus quoi, le King Council, ou quelque chose comme ça. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est une chambre qui est autour de la reine. Et donc, ce que faisait... Donc, Lee Kuan Yew reconnaissait que, dans le domaine du droit... pour déterminer qui avait raison, qui avait tort, eh bien, il fallait mieux demander à la couronne britannique que d'avoir sa propre cour suprême, en quelque sorte, qui aurait été plus douteuse. Et j'ai trouvé, bon, maintenant c'est plus le cas, mais j'ai trouvé que c'était un truc extraordinairement astucieux. Vous voulez établir une filiale à Singapour, bah, vous dites, d'accord, je risque d'avoir des ennuis parce que c'était un gouvernement qui était moyennement démocrate. Hein. Mm-hmm. Vous aviez le droit de voter, mais vous aviez le droit de voter plutôt pour Lee Kuan Yew que pour quelqu'un d'autre. Donc c'était quand même un peu... Donc, si vous voulez, ça donne une idée qu'un type extrêmement... Ok, il avait été formé à Cambridge, mais un type extrêmement intéressant, comme Lee Kuan Yew, se rendait compte de la primauté du droit dans la Constitution anglaise. Et ça, je crois que c'était un des... Et on se rend bien compte que la principale exportation, justement, de la Grande-Bretagne, avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais aussi l'Afrique du Sud, etc., c'est son système juridique. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez un droit qui vient du bas, vous savez, c'est ce qu'on appelle le common law, ou bien vous avez un droit qui vient des codes, c'est l'idée française, c'est le Parlement qui fait les lois. Eh bien, je crois que l'idée de common law, qui est une idée profondément démocratique, le droit évolue doucement avec les volontés de la population, ben, ça a été quand même une exportation absolument gigantesque de la Grande-Bretagne, et la reine y a été... Il n'a pas été pour rien.
Oui, c'est vrai que c'est un système qui est assez populaire dans le monde et notamment dans les pays qui sont en voie de développement et qui n'ont pas forcément un système juridique propre.
Ils ont tendance à reprendre une jurisprudence qui s'est passée en Angleterre au 16e ou au 17e siècle. D'ailleurs, c'est rigolo de voir des gardes d'Afrique avec des perruques de crâne de cheval. Quoi. Ça fait un drôle d'effet, mais ça prouve que quelque part, ils acceptent ou en Chine d'ailleurs. Le juge à Singapour aussi, donc je trouve ça assez, ou à Hong Kong, je trouve ça Il y a, si vous voulez, dès le moment où il y a la primauté du droit, ça permet quand même la démocratie, je veux dire, une vie civilisée. Et l'État est soumis au même droit que les citoyens. Mmh. Parce qu'en France, on a le droit administratif, bref, il y a deux droits en France, et c'est une des causes de notre problème. Mais ça vient de Napoléon.
Oui, c'est pas faux, oui. Ça permet beaucoup de choses, mais c'est vrai que...
Ça permet de maintenir l'État dans des limites raisonnables, souvent.
Oui, voilà. Deuxième info, on va parler d'énergie un petit peu. C'est pas un sujet énorme cette semaine.
Il se passe quelque chose dans le domaine de l'énergie ?
Oui. Bon, ça, on en a déjà parlé pas mal de fois. Mais alors, donc, l'autre Elisabeth, c'est Elisabeth Borne, prévoit une hausse du coût de l'électricité et du gaz de 15% pour les ménages à compter de février 2023. Alors, c'est une hausse qui en soi est assez importante. Mais est-ce que néanmoins, c'est pas rassurant comme chiffre par rapport à ce qu'on pouvait prévoir ?
Ben écoutez, là, la vraie question, c'est quel est le coût de cette énergie qu'on va vendre aux ménages français ? On va peut-être augmenter de 15% pour le ménage, mais si c'est toujours à 50% en dessous des prix du marché, ça veut dire que celui qui vend ce gaz va prendre une gamelle sur chacune de ses ventes.
Ah oui.
Donc ça veut dire que les fonds propres des entreprises qui vendent du gaz vont se rassasier, à moins que la perte ne soit prise par l'État. Mais à ce moment-là, c'est le déficit budgétaire qui va monter.
Ouais.
Donc c'est comme si vous me disiez le gouvernement va bloquer les loyers 10% plus cher qu'aujourd'hui. Et puis, mais vous diriez, mais bloquer les loyers, c'est idiot, parce que ça n'a jamais marché dans aucun pays, à aucune époque. Donc exactement... Pourquoi les Français ne devraient-ils pas payer le prix de marché du gaz ? Parce qu'après tout, si on est des bons écolos, la meilleure façon pour que les Français consomment moins d'électricité, de gaz, etc., c'est qu'ils soient hors de prix, non ?
Oui, c'est vrai. Il y avait ce discours-là qui commençait quand même à être présenté par le gouvernement et même par le président de la République lui-même. Maintenant, peut-être que aussi face à l'impopularité de cette idée, ils se sont dit bon, écoutez, on va un peu trancher la poire en deux, et
on va
une augmentation.
On va faire deux en même temps.
Oui, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation.
Une décision dont on sait qu'elle est mauvaise, mais elle est quoi, moitié moins mauvaise ou plus supportable par les imbéciles qu'on gouverne, ou je ne sais pas. Parce que si vous voulez, si une décision est mauvaise, le degré de mauvaiseté n'a aucune importance.
Oh, quand même, je ne suis pas tout à fait d'accord, quand même, ça dépend...
Plus vous mettrez le prix de l'électricité bas, plus les finances publiques françaises seront plombées, quoi, puis c'est tout.
Oui, c'est un peu ça, bon, ça, on a l'habitude.
Oui, on a l'habitude, mais c'est pas là où vient le problème. C'est à force de pas avoir de prix de marché, on sait plus ce que vaut quoi. On n'a plus aucun prix de marché. Je vous donne un exemple. Si l'électricité reste là où elle est en Allemagne, par exemple, il va falloir fermer toutes les aciéries, toutes les fabrications d'aluminium, toutes les cimenteries. Bon, je vous signale qu'il va falloir fermer aussi en France, parce que ça s'applique aux particuliers.
Oui, absolument. Pas entreprises. Pas des entreprises. Oui.
Par exemple, si vous êtes une boulangerie, que vous avez des fours électriques, vous allez douiller, hein, parce
que
votre pain. Donc, bref, il va y avoir des dizaines et dizaines d'entreprises qui vont fermer, parce qu'elles ne peuvent plus produire à ce coup-là, quoi. C'est pas bon. Bon.
Oui.
Très bien. Et du coup, l'Allemagne, qui répercute, parce que je ne crois pas qu'elle ait les moyens constitutionnels de ne pas le faire, ses prix sur les entreprises, ils sont en train d'acheter du charbon comme des fous, à l'Australie et à l'Afrique du Sud. Donc on fait venir des bateaux entiers de charbon d'Afrique du Sud, d'Australie et d'Indonésie, qui sont vraiment de l'autre côté de la Terre, qui vont eux-mêmes brûler du fuel.
Oui. Non,
et ensuite, on va brûler du charbon en Allemagne.
Oui.
Et donc, faudrait peut-être mieux dire, vous savez ce qu'on va faire ? On va réouvrir des centrales à charbon vite fait, quoi, parce que tout le monde le fait.
Oui. À mon avis, c'est une possibilité, oui.
Oui, non, mais plutôt que de faire des trucs de corne-cul, comme de diviser le prix de l'électricité par 3 avant de le multiplier par 2 et de le diviser par 45, auquel personne ne comprend rien, vous feriez peut-être mieux de dire, écoutez les gars, on va mettre sur une... sur la table d'attente, là, on va mettre sauver la planète, et puis on en reparle dans 5-10 ans quand on aura fait nos centrales nucléaires, quoi. Mais si on fait ça, tout le monde va dire, mais pourquoi vous voulez, rappelez-nous au fait pourquoi on essaie de sauver la planète, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Donc, ils ont une contradiction énorme entre la seule chose que voulaient les élites à Bruxelles, c'était un, sauver la planète, et deux, créer un État européen. Ben, on est en train de voir que l'État européen, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Europe. Mais je tiens à signaler au type là que à Bruxelles, qu'il y a eu des tas de pays où il y avait un État et où il y a eu des guerres civiles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, c'est une guerre civile entre deux nations européennes. L'Ukraine et la Russie, c'était le même pays il n'y a pas bien longtemps. Donc, c'est pas parce qu'on a pas de guerre entre nations qu'on n'a pas qu'on va pas avoir des guerres civiles. Et plus ils feront un gros État européen, plus la probabilité de guerre civile augmente.
C'est pas complètement faux, oui. Et surtout si on a des intérêts qui sont divergents... Forcément,
et qu'on n'a pas envie de donner son blanc-seing à des gens qui n'ont été élus par personne.
Oui, il y a ça aussi. Après ça, on a aussi parfois un peu l'habitude, déjà à l'échelle nationale, c'est déjà assez répandu parfois. Mais donc voilà, c'est...
Donc pour moi, si vous voulez, tout ça, c'est quand vous faites... Ce qu'il y a de terrible, c'est comme quand vous dites un mensonge, vous savez. Ce qu'il y a de très emmerdant avec les mensonges, et c'est pour ça que j'essaye de ne pas y avoir trop recours, c'est qu'il faut s'en souvenir.
Oui.
Tandis que quand vous dites la vérité, vous n'avez pas à vous en souvenir. Donc c'est un peu comme ça pour les prix. Vous mettez des faux prix partout, et après vous mettez des sparadraps partout pour cacher les désordres, les désastres que ça crée. Et finalement, on se retrouve dans un système dans lequel une chatte ne retrouverait pas ses petits, et ils vont continuer à mettre des sparadraps partout. Mais il n'y a pas d'autre façon de retourner à la vérité des prix, mes cocos.
Ouais. C'est une manière de mettre un énorme coup de sparadrap, c'est faire oublier au maximum aux Français.
Mais oublier à quoi ça sert, puisque de toute façon, 3 mois après, il va falloir leur raconter qu'il y aura autre chose à faire. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils pensent que les Français ont la mémoire d'un poisson rouge, vous savez. Ils tournent en rond, ils disent, ah oui, on m'a augmenté de 15%, tout va bien. Puis ensuite, ils m'ont augmenté que de 7% sur les 15%. Puis... Mais non, il me semble que les Français ont quand même un peu le sens de la mémoire, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, eux, ils ont un mépris pour la capacité les Français à les juger, qui dépassent l'entendement. Ils essayent toujours de leur raconter des carabistouilles.
Oui, en fait, je pense que en fait, c'est un calcul qui est purement politique, c'est-à-dire qu'ils préfèrent pratiquer des faux prix et que le reste soit pris par le budget de l'État, plutôt que les Français voient bien la facture d'électricité et qu'ils se disent « Oula, on va sortir les
comptes. » Et cette facture d'électricité, parce qu'elle n'est pas... Bon, elle est très élevée, mais je crois que ça vient d'une décision qui a été prise par la Commission européenne, avalisée par l'État français, que les prix de l'électricité seraient déterminés par le prix marginal du gaz. Mais nous, comme on avait plein d'électricité nucléaire, ça n'avait rien à voir avec le prix du gaz, mais absolument. On a accepté que le prix de l'électricité soit déterminé par le prix marginal du gaz.
Ouais.
Mais je ne sais pas si le prix de l'électricité en France aujourd'hui est déterminé par le prix marginal du gaz. On a encore des centrales nucléaires qui doivent tourner, j'en sais rien. Mais enfin, à un moment, on faisait quoi ? 80% de notre électricité était produite par des centrales nucléaires. Donc, ça n'avait rien à voir avec le gaz.
Oui, absolument. Oui. Et puis,
donc, on massacre les Français parce que la France avait un avantage comparatif avec ses centrales nucléaires et que l'Europe a trouvé que c'était insensé que la France ait un avantage comparatif dans le domaine des... Et donc, on a fait un truc pour tuer l'avantage comparatif de la France sur l'électricité. Et nos cornions l'ont accepté. Mais ils n'ont qu'à l'annuler. Ils n'ont qu'à dire, écoutez, compte tenu de la gravité de la situation, maintenant, on retourne au statu quo ante.
C'est ce que je ferais. D'ailleurs, c'est ce que certains, même autour de Macron, semblent vouloir dire, sans pour autant trop l'assumer, parce que c'est quand même...
Mais il faut pas oublier que Mme Borne, c'était celle qui voulait fermer la moitié des centrales nucléaires il y a un an, quand elle était ministre de l'Industrie. Donc, elle est polytechnicienne, donc elle doit savoir à peu près comment un réacteur nucléaire fonctionne. Donc, mais ça fait rien. Elle savait qu'il n'y avait pas de danger, mais comme on lui donnait l'ordre, elle le faisait. Mais des gens, ce qui me surveille avec toutes ces élites, c'est qu'il n'y en a plus jamais un qui démissionne.
Oui, effectivement, il n'y a pas du tout de sens des responsabilités, c'est jamais faute.
Non, mais c'est pas de leur faute, si on leur donne un ordre, ils le suivent. Mais je croyais que depuis les années 40, c'était... s'il y avait des ordres qu'on suivait pas, quoi. Si c'est pas bon, on donne sa démission et on va vers autre chose.
Ouais, mais après, c'est peut-être aussi un petit peu son idéologie. C'est-à-dire que la fermeture de Fessenheim, c'était un deal entre François Hollande et Cécile Duflot à l'époque de 2012. Et puis, au final, ça a été mis en place, ça a commencé, la maintenance a été arrêtée sous François Hollande. Elle a été continuée ensuite sous Emmanuel Macron et la centrale de Fessenheim a été définitivement fermée lorsque, justement, Elisabeth Borne était ministre de la Transition énergétique. Donc oui, c'est elle qui est partiellement au moins responsable de cette fermeture, mais elle n'en tient pas compte.
Non, mais en plus, on vire le pauvre patron d'EDF, M. Lévy, là, que je ne connais pas, mais enfin, je suis sûrement un type très compétent. Mais, et alors on lui dit, vous n'avez pas entretenu vos centrales. Mais il disait, pourquoi voulez-vous que je les entretienne, puisqu'on allait me les fermer dans les 4 ans qui venaient ou 5 ans qui venaient.
Ouais.
Donc il dit, oui, mais vous auriez dû les entretenir quand même. Mais je veux dire, c'est vraiment...
Donc aller contre les ordres.
donc aller contre les ordres, mais lui, il a suivi son truc. Il a dit, mais écoutez, des centrales qu'on va fermer dans 4-5 ans, je ne vais pas dépenser des 100 et des 1000 pour les maintenir
ouais,
en état.
Bah oui, je comprends.
Et on le vire.
Bah oui. Oui, c'est pareil, on se demande aussi pourquoi on n'a plus d'ingénieurs nucléaires, mais forcément, on disait il y a 20 ans qu'on allait s'en débarrasser, du coup, bah,
personne n'est allé.
Même personne ne voulait aller dans ces filières-là.
Mais évidemment non.
Donc évidemment, voilà, c'est toujours un petit peu énervant, c'est que les décisions qui nous plongent dans l'abîme sont extrêmement faciles et rapides à appliquer, alors que celles qui peuvent nous relever, elles prennent beaucoup plus de temps.
C'est quelque chose que je me tue à dire aux gens, mais en même temps, les décisions qui nous plongent dans l'abîme, c'est comme l'euro et toutes ces saloperies-là, on voit les effets négatifs 5, 10, 15 ans après. C'est-à-dire au début... Vous savez, c'est le gars qui tombe de 30e étage, là. Il passe devant le 20e, il dit tout va bien, le 10e, tout va bien. Mais c'est exactement ça. Donc, je regarde ça, je me dis c'est incompréhensible. Parce que je n'arrive pas. Ça ne peut. C'est soit de la lâcheté, soit de la bêtise, c'est pas exclu. Soit alors un cynisme qui dépasse l'entendement.
Je pense qu'il y a un peu de ça, il y a le côté juste, moi j'ai envie de faire carrière, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, donc je suis les ordres, et comme ça, au pire, bah c'est les ordres d'au-dessus, donc c'est pas moi, jamais personne n'est responsable. Combien de fois j'ai vu des articles qui disaient que Macron était furieux contre ses ministres à cause de je sais plus quoi, comme s'il était pas au pouvoir, quoi.
C'est lui qui avait donné l'ordre, et ses corneaux l'avaient suivi.
Oui, voilà, donc il donne les ordres, ou d'autres donnent les ordres, certains les suivent, et puis... jamais personne n'est responsable à la fin. Quoi. Donc,
ça, si, c'est un petit à la peu fin, énorme. On trouve un lampiste comme M. Lévy qu'on fait sauter.
Ouais, peut-être, ouais. Changement d'info, on va parler un petit peu du front russe, peut-être pas trop longtemps quand même, mais on va en parler. On n'en avait pas parlé depuis longtemps parce que l'intérêt tactique avait un petit peu diminué. C'était une guerre qui était plus contenue, avec moins de pertes des deux côtés, que ce soit en pertes humaines ou en pertes matérielles. Cependant, là, tout de même, il faut admettre que l'armée russe a subi une assez grosse défaite. Il y a même un commentateur militaire russe qui a qualifié cette nouvelle déroute de plus grande défaite militaire russe depuis 1943. Que vous évoque cette défaite militaire? Parce qu'on se serait dit quand même au départ que la Russie avait un avantage tactique absolument énorme sur l'Ukraine, et au final, elle n'arrive pas tout à fait à aller au bout de ses objectifs.
Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire là. Je ne sais pas trop dans quel ordre les prendre. Je vais essayer de commencer par ce qui me semble le plus évident. La plupart des gens pensent que il serait intéressant pour la Russie que la guerre s'arrête le plus vite possible. Je vois pas pourquoi. Je vois très bien pourquoi il serait bon qu'elle s'arrête pour l'Europe ou pour les États-Unis, mais pour la Russie, ils ont pas intérêt. Plus ça continue à durer, plus ils vendent leur pétrole cher, plus ils vendent leur gaz cher, etc. Donc ils ont pas. Donc c'est la première des choses. L'hypothèse que la Russie a intérêt à une victoire rapide, peut-être pas. Elle a peut-être intérêt à ce que l'Europe s'enlise dans ce truc-là. Et qu'on continue à ramer comme des fous à cause de... Et que ça fait qu'on ait en lice partout des Orban ou des comme ça, si vous voulez, pour changer la donne politique. Bon, ça, c'est possible. La deuxième chose qui me paraît tout à fait intéressante, c'est quand vous regardez les opérations militaires, logiquement, compte tenu de la taille de l'Ukraine et des forces en présence, l'armée ukrainienne fait à peu près 450 000 personnes, les Russes n'ont envoyé que 150 ou 200 000 hommes. Ce qui est très curieux, parce qu'ils ont soi-disant une armée de plus d'un million d'hommes. Donc pourquoi ils envoyaient que ça? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas de réponse à la question. Et par exemple, dans la défaite militaire dont on peut parler, c'était un endroit qui était quelque part sur la ligne du front, plutôt vers le nord. Et là, il y avait, c'était un front qui était très grand, et il y avait comme défense que, mettons, des gendarmes.
Oui, il n'y avait pas... Il y avait
les troupes n'étaient pas là.
Oui, absolument.
Les troupes n'étaient pas là. Et donc, les Ukrainiens sont arrivés avec l'aide des États-Unis, etc. Et ils ont fait, ils ont fait à peu près 5 à 6 hommes pour un Russe qui était là. Donc, il s'est passé un phénomène curieux. Dès que les troupes alliées sont... Enfin, non-russes se sont enfoncé le front, d'ailleurs qu'il n'y avait quasiment personne... les Russes ont retiré tout le monde tout de suite. Ils ont eu, pour ainsi dire, aucune victime. Il n'y a quasiment pas eu de bataille. Ils sont avancés dans le vide.
Il y a eu quelques dizaines de morts, pas beaucoup plus.
Mais par contre, maintenant, les meilleures troupes ukrainiennes sont avancées dans cet espace qui est, paraît-il, plat comme la main, où on va pouvoir peut-être les ratatiner avec les avions et et l'artillerie. Donc, est-ce que c'est un énorme piège pour faire avancer la meilleure troupe? Ils en ont déjà tué un paquet, les Russes. Il y a énormément de pertes ukrainiennes. Je ne sais pas non plus. Et puis, troisième point, c'est beaucoup plus au sud, du côté du Donbass et de Donetsk, là-bas. Là où il y a le cœur militaire des forces ukrainiennes, c'est là où ils ont fait le plus de retranchements, de fortifications, etc. La bataille a l'air de reprendre assez sérieusement, parce que quand ils ont retiré leurs meilleures troupes pour les faire avancer là, ben elles ne sont plus là.
Oui.
Et donc, je ne dis pas, je ne sais pas trop, parce que j'écoute tout ça. Moi, mes connaissances militaires sont limitées, mais je me dis... Les batailles, c'est quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de faux-semblants, si vous voyez ce que je veux dire. On fait des fausses trucs. C'est comme les Anglais qui avaient fait des tanks en carton partout sur la ligne avant, en 1940.
Ouais. D'ailleurs, les Ukrainiens ont refait ça avec des espèces de véhicules qui lancent des missiles, et c'est des lance-missiles mobiles en fait, et ils en ont fait en bois, et donc ça a diminué énormément le stock de missiles russes en fait.
Oui, parce qu'ils ont été tirés sur des trucs en carton. Donc, je ne sais pas trop, mais moi, il y a des tas de choses que je comprends pas trop dans cette guerre, c'est pourquoi si peu de soldats russes?
Ouais.
150 000 alors qu'ils auraient pu en mettre 300 000 ou 400 000 dès le départ. Est-ce qu'ils veulent que ça dure le plus longtemps possible? Est-ce qu'ils veulent que ça fatigue? Parce que pendant ce temps-là, nous, on file des armes, on file des munitions, on file du pognon. Ça finit, et puis on n'a pas que ça à foutre, parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des gens qui commencent à dire « Bon, bah, alors si je comprends bien, on peut envoyer 25 milliards de dollars à l'Ukraine, mais on ne peut pas s'occuper du pont dans l'Alabama, quoi, qui s'écroule. » Donc ça commence à... Donc... Je sais pas, moi, donc j'ai du temps. Je suis content pour les Ukrainiens qu'ils aient une victoire, ça leur fait du bien. Ils auraient pu en profiter pour demander des négociations tout de suite, en disant, bon, mais maintenant qu'on a repris une victoire, on est content, on peut... Et alors, je voudrais terminer en disant deux choses qui me semblent essentielles. C'est que la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est une défaite russe. Parce que si la Russie commence à perdre... Elle peut faire ce que dit Clausewitz, c'est-à-dire aller aux extrêmes.
Oui, mais d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui semble se dessiner, en tout cas dans les discours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une frustration de l'ordre militaire russe, notamment de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'ils ont...
Ils ont commencé à raser toutes les centrales, etc., du côté qu'ils n'avaient jamais touché, là,
dans l'Ukraine.
Donc à ce moment-là, si vous voulez, s'ils commencent à raser toutes les centrales, à raser toutes les usines, à raser tous les trucs civils... Bon, on va se retrouver avec... Ils vont avoir du mal à bouger leurs troupes là-bas, hein, quand il n'y aura plus de train, quand il n'y aura plus rien. Donc, il y avait eu une espèce de retenue de la part des Russes, qui était assez étonnante en cas de guerre. Mais là, je ne sais pas, si on sort de toute retenue, J'ai très peur. Le but des Américains, c'est de faire comme toujours ce qu'ils appellent un changement de gouvernement. Vous savez, un changement, il faut changer. C'est ce qu'ils ont essayé en Irak, en Afghanistan, partout, ben avec toujours le succès qu'on a vu. Mais je ne suis pas certain que le gouvernement russe actuel sera un gros partisan du changement de régime. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai peur de la montée aux extrêmes.
Oui. Bah, effectivement, c'est un peu... C'est quelque part, c'est un petit peu de la triche militairement, mais ça peut tout à fait exister. C'est-à-dire, ils sont sur un modèle de guerre conventionnelle, troupes au sol, tanks, quelques petits missiles de temps en temps. Et puis, s'ils n'arrivent pas à avoir leurs objectifs avec ça, ça risque de monter en intensité au fur et à mesure. Jusqu'à,
c'est ce qu'a dit Poutine. Il a dit bon, la guerre va vraiment commencer maintenant.
Oui. Après, parfois, j'ai un peu l'impression que depuis le mois de mars, j'ai l'impression que toutes les 3 semaines, la guerre va vraiment commencer. Donc parfois, je ne sais plus trop.
Non, mais il me semble là que... Moi, je vois des gens qui souhaitent de tout leur cœur la défaite de la Russie, mais j'imagine rien de pire. Hein, parce que comme déstabilisation, ça serait... parce que si c'est... Enfin, ouais, je ne sais pas quelle serait la réaction d'abord des Russes, et ensuite de l'armée russe, et des corps constitués russes. Il ne faut pas oublier qu'on a essayé de ruiner la Russie quand le mur de Berlin est tombé. On a envoyé tous les gars américains des universités pour essayer de piller les ressources naturelles de la Russie. Ils se sont fait virer quelques temps après, avec les oligarques qui avaient gagné un peu d'argent. Mais quand vous regardez l'étendue de la Russie et les ressources naturelles qui y règnent, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être des gens dans l'appareil industriel ou militaire ou industriel américain qui aimerait bien mettre la main sur ces ressources, quoi.
Oui, sans doute. Peut-être arriver jusqu'à un changement de régime, mettre en place une petite social-démocratie qui va être sous influence américaine. Enfin, voilà.
Comme ils ont essayé de faire lors du Maïdan en 2014 en Ukraine.
Oui, ou même exactement sur le même modèle que l'Allemagne après 1945.
C'est ça, oui. Avec des troupes russes qui sont là,
voilà,
des troupes américaines qui sont là.
C'est
tout ça me gêne énormément parce que j'ai l'impression que les Russes, pour l'instant, sont battus un peu avec la main attachée dans le dos, ce qui pour moi m'allait bien parce qu'ils tuaient ils essayaient de tuer le moins de monde possible parce que c'est des frères les Ukrainiens, donc ils ont de la famille là-bas, donc
ils avaient peut-être pas non plus intérêt à ce que ça monte trop en intensité dans le sens où on commence là depuis quelques mois à plus entendre parler de crimes de guerre, de ce genre de choses, donc peut-être que ça calme aussi un peu l'opinion européenne sur la question.
Ça va, peut-être, on va voir, mais donc si vous voulez je regarde ça avec cette guerre me paraît stupéfiante.
Ouais, c'est effectivement intéressant d'avoir en plus sur le front européen une guerre à cette époque-là, puisque certains pensaient qu'elle n'allait plus jamais revenir. Donc
attendez une seconde, vous êtes gentil, mais quand les Américains ont bombardé la Serbie et ont enlevé la Serbie le Kosovo pour le donner à l'Albanie, si je peux me permettre, il faudra que les gens m'expliquent quelle est la différence entre ça et la Russie qui envahit l'Ukraine pour reprendre les provinces russes, quoi.
Oui, moi j'en vois pas beaucoup, mais...
Et donc, si vous voulez, d'un seul coup, on nous explique qu'on n'avait jamais vu ça depuis Hitler. Si, on l'a vu. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu. Donc, ce truc de dire... j'ai jamais vu un État qui ne se battait pas en étant persuadé que Dieu était dans son camp, quoi. Mais la justice et la bonté, et qu'ici, s'il se battait, c'était toujours pour le...
Pour le bien, oui.
Pour le bien de l'humanité, quoi. C'est ce qu'il y avait surprenant avec les nazis, c'est justement, eux, ils n'en avaient rien à foutre, ils se battaient pour le mal, si j'ose dire. Ils n'avaient jamais prétendu que Dieu était avec eux, quoi, puisqu'ils n'y croyaient pas. C'était des brutes, et ils glorifiaient la brute, ce qui était un truc nouveau.
Je pense qu'il y en avait beaucoup, quand même, qui pensaient se battre pour le bien. Après, c'est vrai que c'était pas forcément motivé comme ça, quoi, mais bon. Alors, on en avait parlé un petit peu lors des deux dernières émissions, mais évidemment, c'était au futur parce que ça n'avait pas encore eu lieu. C'est les élections législatives en Suède. Mmh. On avait imaginé que peut-être la majorité du Parlement suédois passerait potentiellement de la gauche à la droite. Eh bien, c'est chose faite. Les démocrates suédois, qui est donc le parti radical de droite, on pourrait dire nationaliste, est désormais le deuxième parti politique du pays. Les sociaux-démocrates suédois, ce qui n'est pas la même chose, qui est le gros parti de centre-gauche, demeure quand même le plus gros parti du pays. Sauf que la coalition dont il faisait partie n'est pas suffisante par rapport à la grande coalition de droite. Donc je trouve que c'est assez intéressant à analyser, déjà parce qu'il s'agit de Suédois.
Oui, parce que c'est quand même eux qui ont inventé la
C'est
social-démocratie.
ça.
Il faut quand
C'était
même
quand
le
même,
dire.
voilà, c'était des exemples absolus en termes de
De
social-démocratie
tolérance,
européenne.
je connais bien, comme je l'ai souvent expliqué, je connais bien la Suède. J'y suis allé souvent, mon frère y vit, j'ai des neveux suédois. Donc les Suédois disent toujours en rigolant que si vous cherchez un type intelligent individuellement, vous allez chercher un Français, quoi, parce que le type, il est. Mais vous mettez cinq Français ensemble autour d'une table, ils sont d'accord sur rien, quoi.
Ouais,
Ils
c'est
sont
vrai.
incapables de se mettre. Vous mettez cinq Suédois ensemble qui sont beaucoup moins brillants individuellement que le Français, ils se mettent immédiatement à bosser pour savoir comment arriver au but désiré. Donc c'est un peuple qui va naturellement vers le consensus. Il y a une espèce de formation, tout ça, il va naturellement vers le consensus. Et là, le consensus, bah, c'est ce qu'il faut dire quelque part, a été brisé. Mais il n'a pas été brisé à cause d'un échec économique de la social-démocratie, parce que le pays est plutôt bien géré, des comptes courants excédentaires, un budget excédentaire, ils n'ont pas fermé les gens pendant le Covid, enfin, il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça, ça s'est très bien passé. C'est à cause de l'immigration.
Oui, en très grande
C'est-à-dire,
partie, oui.
ça a été un vote où les Suédois ont dit, écoutez, on a ramassé 10 ou 12% de la population depuis 10 ans. Qui venaient de pays qui avaient des raisons d'aimer, etc. Bon, ça va bien maintenant.
Oui.
On arrête parce que notre tissu social est en train de s'effondrer. C'est-à-dire une criminalité. Et puis il y a des endroits où il y a tellement d'immigrés que du coup, ben, le travail des écoles d'assimiler les gens ne peut plus se faire, puisqu'il n'y a plus que des immigrés dans ces écoles. Donc, c'est pas du tout un vote de condamnation de la social-démocratie du point de vue économique. C'est un vote qui s'est produit sur l'immigration.
Oui, et c'est même un vote quelque part qui voudrait sauver la social-démocratie en
Sauver
disant la condition du
pour sauver la
sauvetage
social-démocratie.
de la social-démocratie, c'est
Si
de
j'ose dire,
sélectionner mieux les gens qui viennent.
Zemmour, s'il avait fait campagne en Suède, il aurait été élu.
Peut-être.
Parce que il a parlé que de l'immigration.
Oui, c'est vrai. Bah, peut-être qu'en tout cas,
pas
il aurait
des
fait
échecs
20%.
économiques, mais il n'y avait pas parlé d'échecs économiques. Sinon, il n'y en a pas eu. Donc.
Oui.
Donc c'est intéressant parce que là, c'est un... Et puis ça dit quelque chose pour la France, c'est que dans le fond, comment ont-ils gagné les gens de droite? Ben, c'est qu'ils ont allié la droite anti-immigration à la droite normale, si j'ose
Oui,
dire.
absolument. Ça
Et
aussi,
du
c'est
coup, ça fait
intéressant.
pouf, ils font une majorité. Ça pourrait peut-être donner des idées à des gens en France, j'en sais rien.
Oui, c'est très intéressant. Pour parler un petit peu de l'immigration, j'ai un chiffre à soumettre à nos auditeurs, c'est 58%. 58% des condamnés pour viol et tentatives de viol entre 2013 et 2018 sont des personnes nées à l'étranger. C'est un chiffre qui vient de la Swedish National TV, alors que ces personnes donc nées à l'étranger en Suède représentent 16% de toute la population. Donc ça veut dire qu'une personne née à l'étranger a donc 4 fois plus de chances d'être condamnée pour cela qu'un Suédois né en Suède. Et puis on rajoute aussi à ça, à ce sentiment-là, les émeutes des immigrés qui avaient eu lieu en printemps 2022. Et puis il y avait eu la première ministre suédoise qui elle-même avait fait l'aveu que l'intégration avait
Ça
échoué
avait
en
échoué.
Suède. Donc la Suède, qui était quand même un pays un peu magique pour beaucoup de gens de gauche en Europe, qui était une sorte de paradis du vivre ensemble, c'est devenu rapidement une sorte d'enfer du vivre avec, quoi.
Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Ben, surtout que les Suédois, les gens, c'est un très grand pays, la Suède, hein, c'est immense. Enfin, oui. Et c'est un pays, il y a que des rocs, hein, il y a beaucoup de rochers, hein, puis des arbres maigrichons. Et les gens vivent dans, mettons, allez, 3-4 villes. Il y a
Oui.
Göteborg, il y a Stockholm, il y a Malmö, il y a quelques grandes villes comme ça. Et puis le reste de la population, c'est dans les campagnes, mais il n'y a quasiment personne. Donc l'immigration, c'est bien sûr concentré dans les villes, et les problèmes, c'est dans les villes aussi. Donc. C'est une vraie question, c'est l'intégration. Ils ont reçu beaucoup, je crois, d'Afghans, d'Éthiopiens, de Syriens. Et il y a des anecdotes que je peux vous raconter, parce que je connais la Suède, c'est que il y a en Irak, toute une partie de l'Irak qui était détenue par des chrétiens, qui étaient nestoriens, je crois. Et il y avait une partie de l'Irak qui était des chrétiens nestoriens. Vous savez, c'est des chrétiens qui avaient été convertis par Saint Thomas, je crois, les gars. Qui étaient jamais. Et ils ont, quand on a commencé à massacrer les chrétiens au Moyen-Orient, ils sont tous partis en Suède. Et il y a une ville qui est à quoi, 40 km de Stockholm où ils sont tous. Mmh. Et ils sont des bons Suédois, vous voyez, ça bosse. Et, ouais, ça ils sont intégrés, personne n'en parle, ils vont très bien.
Ça se passe bien.
Ça se passe bien. Et j'en ai rencontré un ou deux quand j'étais en Suède la dernière fois. Ils me disaient, mais où est-ce qu'on va aller la prochaine fois? Parce qu'ils voyaient revenir les gens qui les avaient chassés.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, ils étaient très inquiets.
C'est vrai, c'est
faut pas oublier que le christianisme, il y a 10 siècles ou 12 siècles au Moyen-Orient, tout le monde était chrétien.
Ouais.
Et ils ont été laminés, virés, convertis de force. Enfin, bref. Donc il y a un vrai problème, c'est que les gars qui étaient là, qui s'étaient assimilés, qui étaient venus de l'extérieur, qui avaient été parfaitement reçus, et c'est peut-être ce qui a trompé les Suédois, ils se sont dit, bon, ceux-là, ils sont venus, ils sont assimilés, donc les autres vont faire pareil.
Ouais.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Oui, mais il y a aussi une forme d'angélisme, de l'indifférenciation des êtres humains et des cultures. Oui. C'est-à-dire, on considère que tout le monde est pareil, et donc si on considère que tout le monde est pareil, bah, tout le monde va être pareil. Et évidemment, ça ne marche pas comme ça.
C'est un vrai problème là, mais encore une fois, ça n'est pas un problème économique là.
Oui, là,
c'est un problème sociétal.
C'est vrai. C'est pas du tout un problème économique, et on pourrait avoir d'ailleurs dans un futur à proche ou moyen terme une addition des facteurs économiques et des facteurs culturels et l'immigration, ce qui pourrait.
Mais il faut pas oublier que les Suédois ont une monnaie qui flotte. Donc chaque fois dans l'histoire, depuis les années 30, dès que ça commence à pétouiller dans le monde, l'économie ralentit et tout, ils envoient leur monnaie au tapis pour protéger la portabilité, la rentabilité des entreprises. Donc ils ont toujours fait ça. Donc vous regardez sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou n'importe quoi, la bourse qui a fait le mieux au monde, même mieux que les États-Unis, ça a toujours été la bourse suédoise.
D'accord, ah oui, c'est intéressant.
Ça fait partie de la social-démocratie, c'est-à-dire que vous préservez l'emploi et moi je préserve vos profits.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Mais donc, c'est assez intéressant, donc déjà parce que c'est des Suédois, parce que donc, ce parti-là, qui est les démocrates suédois, les démocrates suédois qui était quand même un parti extrêmement à droite il y a de ça une trentaine d'années, qui était...
quasiment facho, oui.
Oui, c'est ça. C'est une revendiquée néo-fasciste à la fin des années 80, qui évidemment a un peu changé, mais qui demeure quand même sur un discours assez dur, assez robuste, oui. Donc, c'est le deuxième parti du pays. En plus de ça, ils ont réussi à s'allier avec une droite qui a une réputation un peu plus respectable, plus classique, voilà. Et puis, voilà, c'est la Suède. C'est-à-dire que moi, je commençais à être un petit peu fatigué de citer uniquement les exemples de la Pologne et de la Hongrie, parce que c'est des pays que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'ils ont une mauvaise réputation.
Ils ont quasiment jamais laissé rentrer les gars.
Oui, c'est ça.
Tandis que là, les Suédois les ont laissé rentrer et se disent « Oups !» On a un problème.
Voilà, c'est ça. Et donc, bah, ils ont réagi. J'espère que c'était à temps, parce qu'en plus, peut-être que ils vont avoir des problèmes pour gérer cette immigration là, même en étant au pouvoir. Hein, c'est pas impossible. Peut-être aussi qu'ils vont avoir des problèmes pour répartir le gouvernement. Peut-être que d'ailleurs, ils vont pas tout à fait se mettre d'accord pour avoir des ministres de tous les partis.
Ils sont 177 contre 173, je crois, au nombre des députés. Donc, ils ont quatre députés de majorité. Je sais pas quoi.
Ouais, c'est 176 et 173 de l'autre côté, je crois. Il me semble. Je crois que c'est ça. Et la majorité précédente, c'était à un près en faveur de la gauche. Donc finalement, ça n'a pas énormément changé, mais quand même, ils ont la majorité. Donc
on est passé de l'autre côté de 50.
Voilà. C'est important. Donc ce serait intéressant de voir un petit peu au futur cet exemple-là.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quelles sont les mesures que va prendre cette droite qui, encore une fois, étant suédoise et consensuelle, pour essayer d'intégrer les gars. Mm. Parce que je les connais, mes Suédois, ils vont dire, bon, ben, on ne va pas faire le truc de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Ouais.
On va avoir une main de fer dans un gant de velours, quoi, si j'ose dire, ou le contraire. Et donc, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'une droite, mettons anti-immigration, va trouver comme solution pour essayer d'intégrer des gars qui sont là depuis 25 ou 30 ans.
Ouais.
Ça va être intéressant de voir là, s'il y a un peu de créativité là.
Ouais. Alors je sais pas exactement où ils en sont par rapport notamment à la clandestinité, parce que ça aussi il y a des gens qui sont probablement sur le territoire de manière illégale.
Ouais, c'est pas évident donc, d'arriver en Suède hein, parce qu'il faut...
Oui, non, je m'en doute.
C'est un peu... Si vous voulez, autrefois ils avaient les mêmes lois contre les chats et les chiens, vous savez, contre la rage que les Anglais, et on pouvait pas passer avec des animaux. C'est parce que vous avez des points d'entrée en Suède qui sont pas... Si, vous pourriez arriver par la Russie, mais enfin, là, je crois pas qu'il y a beaucoup de risques, là.
Ouais, je pense pas que ce soit...
Ou la Norvège, mais là non plus, il y a pas moins de risques, c'est pas...
Ouais. Mais donc ça va être intéressant de voir déjà, effectivement, quelles mesures ils vont prendre, quelles mesures vont être appliquées.
Mm-hmm.
Ça peut être un précédent historique assez intéressant pour les droits européens.
Je peux me tromper, bien sûr, mais ça va passer par une augmentation des pouvoirs régaliens de la police, quoi.
Ouais. Sûrement, oui, c'est sûr. J'ai vu des gens quand même se plaindre sur les réseaux sociaux que c'était le retour de la loi et de l'ordre, quoi. J'ai dit, mais comment on peut être contre ? Je veux dire, si la droite, si l'extrême droite, c'est la loi et l'ordre, c'est quoi la gauche, quoi ?
C'est l'absence de loi et c'est le désordre.
C'est l'anarchie, quoi.
C'est l'anarchie et le désordre. Oui.
Très bien, donc tu te fais voler ton vélo, ton grille-pain et ton appartement et t'es content, quoi. Bon, ok, très bien. Intéressant.
Voilà.
Et puis, évidemment, on va bientôt pouvoir parler aussi des législatives en Italie. Ça va être très intéressant parce que l'Italie, c'est un pays qui a commencé à être un petit peu énervé depuis quelques années déjà. Et puis, les sondages donnent quand même la droite très, très facilement gagnante de ces élections.
Mais je voudrais faire une remarque sur la Suède avant de partir. J'en reviendrai à la Suède, si vous voulez. Mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a eu 87% de votants.
Oui, c'est vrai, il y a une très forte participation.
C'est pas 45% de votants comme chez nous aux législatives. 87% de votants, c'est-à-dire que là, vraiment, le peuple s'est exprimé. Hein. Il n'y a pas à chiquer, quoi.
Absolument. Mais d'ailleurs, en Italie,
ça va être pareil.
En Italie, ils prévoient une faible participation. Alors après, c'est toujours un peu pareil. Les sondages sur la participation, ils font que augmenter au fil du temps. Quand on est encore à 6 mois des élections, on s'en fiche un peu. Et puis quand on est à 2 semaines, ça commence à intéresser les gens. Mais ils prévoient plutôt une faible participation. Mais alors dans les sondages, je vais les donner un petit peu parce que c'est des sondages qui sont intéressants dans le sens où ils sont assez stables depuis des mois. Donc on peut peut-être les écouter. Donc ils donnent Fratelli d'Italia, qui est donc le parti de Giorgia Meloni, à 25% et première dans toutes les régions d'Italie. Le Partito Democratico, donc de centre-gauche, il le donne à entre 20 et 21. Le Mouvement 5 étoiles, qui est plutôt plus de gauche radicale, il est plutôt autour des 15%. La Ligue du Nord, autour des 12-13%. Forza Italia, qui est le parti de Berlusconi, autour de 8%. Et donc, on aurait en termes de bloc 46,5% pour le bloc de droite, 27% pour le bloc de gauche, 15% pour le Mouvement 5 étoiles et 6,5% à peu près pour le centre. Et donc une majorité assez confortable dans les deux assemblées pour la droite, pour le bloc de droite, sans toutefois probablement atteindre les deux tiers.
Aussi, à partir des deux tiers, on pouvait faire des réformes constitutionnelles.
C'est pour ça que c'est intéressant, ouais. Mais donc après ça, évidemment, le système de suffrage italien pour les législatives, je vais pas l'expliquer. En plus, je sais même pas si je saurais vraiment l'expliquer parce qu'il est vraiment très compliqué. Donc j'invite tout le monde à regarder les pages Wikipédia ou des institutions italiennes.
C'est pour ça que les gens vont pas voter. Hein. Si vous comprenez pas pour qui vous votez, vous y allez pas. Hein.
Peut-être, il y a peut-être de ça. Mais oui, il y a des systèmes de, en même temps, un peu de proportionnel, de primo vainqueur, c'est de scrutin de liste, enfin bref,
c'est la combinazione.
C'est ça, c'est extrêmement compliqué. En plus de ça, ça change tout le temps. Donc c'est, même si vous les connaissez, par exemple en 2015, c'est même plus les mêmes aujourd'hui, quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc on va voir ce que scrutin nous réserve. Malheureusement, même la semaine prochaine, on n'aura pas encore les résultats, mais la semaine d'après, on les aura. Donc ce sera intéressant. Et puis, sur ce, je remercie chacun d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je remercie Charles aussi pour sa présence hebdomadaire. C'est quand même important, c'est le personnage principal de l'émission.
Je ne sais pas pourquoi, mais puisqu'on me dit d'y aller, j'y vais. Moi, je suis un bon garçon. Hein.
Mais plus le temps passe, plus vous êtes une rockstar sur Internet. C'est un truc de dingue.
J'arrive pas à le croire, ça. J'en reviens pas. Et même sur TikTok, alors... Entre un chien et une femme à poil, on voit apparaître Charles Gave.
C'est ça, c'est le jeu des algorithmes. rythme. Mais oui, je pense que vous êtes de très loin le mec le plus populaire sur les algorithmes qui parlent un peu d'économie et
de
société aussi sur ces réseaux sociaux. Donc, bah, je vous incite à nous rejoindre puisque nous y sommes sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Je vous incite également à consulter les articles du blog de l'Institut des Libertés. Vous avez écrit un article assez intéressant lundi sur un petit peu un compte-rendu
Je l'ai traité ce matin, j'ai expliqué comment continuer à essayer de préserver son épargne, quoi.
Voilà, c'est ça, avec le portefeuille idéal, donc avec une différence, je crois, de 12 points par rapport au CAC 40 depuis 2020.
Deux ans et demi, oui.
C'est ça. Donc voilà, donc si vous voulez éventuellement imaginer comment vous pouvez vous faire un petit portefeuille, bah, ça peut
comment
être intéressant.
Vous protéger contre la rapacité de ceux qui nous dirigent.
Mmh. Et c'est assez intéressant parce que c'est un portefeuille qui est valable un peu en toute situation, parce que vous avez 50% de valeur antifragile, en gros, qui évolue positivement en période difficile, et 50% sur des valeurs qui, elles, généralement, bénéficient de la,
ben,
de la,
vous
de la
savez, croissance. Vous savez qu'on est d'une famille de joueurs de rugby. Ben, pour jouer au rugby, vous avez des gars qui sont gros,
ouais,
qui
voilà.
tiennent au sol, qui se mettent sur la gueule, personne n'y comprend rien ce qui se passe en dessous, mais ça a l'air d'être intéressant. Et puis vous avez des gars qui galopent derrière. Et ben là, le portefeuille que j'ai fait, c'est une équipe de joueurs de rugby. Vous avez 50% de gros qui tiennent au sol, et puis il y en a quelques-uns qui peuvent galoper derrière parce qu'ils sont voilà. Donc c'est un peu ça.
Bah, l'économie, c'est du rugby, quoi. C'est un peu pareil.
Ben, en tout cas, les placements.
Ouais. Ouais, les placements.
Les placements. Il faut pas oublier que si vous n'avez pas les gros quand la pluie commence à tomber, ben vous allez nulle part, hein, parce
oui,
que les gars
vrai.
Ils galopent pas très bien derrière.
C'est vrai. L'analogie est pas mal. Bah, je remercie tout le monde encore une fois, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion.
Merci beaucoup.